cette période d'examen, eh ben, je voulais vous faire aussi passer un petit examen ce matin pour commencer. Ce matin, si je vous dis heureux les pauvres en esprit, vous me répondrez car le royaume des cieux est à eux. Si je vous dis ce matin heureux les affligés, car ils seront consolés. Magnifique, hein ? Voilà, je pense que vous avez tous la mention, hein ? Merveilleux. Bah, je vous propose de continuer dans les béatitudes. Et ce matin, bah, nous allons voir la troisième béatitude. Heureux les débonnaires. Ah, pardon. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Ils hériteront la terre, pardon. Alors, je ne sais pas pour vous, mais débonnaire, ce n'est pas un mot que j'utilise tous les jours. Donc il a fallu un peu que je regarde dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Et débonnaire, ça vient de l'ancien français qui vient de « de bonne air » ou « de bonne souche ». Et la définition propre de ce mot débonnaire, c'est quoi ? C'est « personne qui se caractérise par une grande bonté, une tendance à se montrer favorable et secourable à autrui, qui est facile à vivre, qui se montre accommodant, conciliant dans ses rapports avec autrui ». Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans les autres versions bibliques, pour ce même verset, il est question de personnes humbles. Dans la version Sommer, il est écrit « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage ». Dans la version Second 21, il est écrit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ». Il est donc question ici de bonté, d'humilité, de douceur. Et effectivement, si on se réfère au terme utilisé dans la version originelle, dans la version du texte grec, ben on se rend compte que le terme qui est utilisé pour définir débonnaire, c'est le mot praos. Heureux les débonnaires, praos, car ils hériteront la terre. Et ce qui ressort de ce mot, c'est essentiellement une notion de douceur. Sa définition même est la suivante: douceur de disposition, gentillesse d'esprit, douceur. Et d'ailleurs, lorsque praos est utilisé ailleurs dans la parole de Dieu, c'est avec toujours cette même connotation de douceur. En effet, si on prend Matthieu au chapitre 21, versets 1 à 5, il est écrit: lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est au-devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « Dites-le à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » On voit vraiment ici cette connotation de douceur, n'est-ce pas ? Et ce même mot pros, on le retrouve aussi dans l'épître de Pierre, lorsqu'il s'agit d'enseigner les femmes en disant « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Donc ce mot pros, ça signifie plein de douceur, n'est-ce pas, et un esprit doux. Voici ce qui caractérise le débonnaire. Heureux donc celui qui est bon, heureux celui qui est doux, heureux celui qui est humble. Et de même que les pauvres en esprit ne sont pas des simples d'esprit, et bien de même, être doux, ce n'est pas manquer de caractère, ou être passif, ou être inoffensif. La douceur dont il est question ici est celle qui nous vient du fruit de l'esprit que l'on retrouve dans le livre des Galates, chapitre 5, 22, où il est écrit: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La douceur est une qualité spirituelle fondamentale, n'est-ce pas, et essentielle à notre statut de nouvelle création en Jésus-Christ. Même si parler aujourd'hui de douceur et d'humilité, c'est de l'anachronisme pur, n'est-ce pas? C'est être hors de son temps quand on considère toute la violence qui s'offre à nos yeux, quand on voit les guerres entre les nations, le terrorisme, la violence dans les manifestations, la violence même au sein de certains foyers, entre conjoints, entre les enfants, envers les personnes âgées, violence verbale, violence psychologique, harcèlement. Et la violence est tellement présente dans notre société à de degrés divers qu'elle devient presque une fatalité à laquelle on ne peut échapper. Et certains iront même jusqu'à dire que c'est la seule façon de s'exprimer si l'on veut arriver à ses fins et obtenir gain de cause, qu'il faut agir avec force si l'on veut que l'on ne nous marche pas dessus et que la douceur n'est que pour les faibles, que la douceur est synonyme de faiblesse. Alors que, avouons-le, il est tellement plus facile de s'emporter et d'user de violence alors que de garder la maîtrise de soi et agir avec douceur est loin de la portée de tous, n'est-ce pas? Sommes-nous conscients que vivre sans douceur, c'est sortir du plan que Dieu a prévu pour nous? Car seuls les doux posséderont l'héritage que Dieu accordera dans les temps à venir. Sommes-nous conscients que la douceur est un trait de Jésus-Christ lui-même? Et on l'a vu, on l'a lu ce matin, lorsque Jésus, dans Matthieu 11, 29, se définit comme doux et humble de cœur. Jésus-Christ nous dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et cette douceur est loin d'être une faiblesse ou de l'impuissance. Tout au contraire, si Jésus traite avec douceur tous ceux qui se présentent à lui, il sait aussi parler en homme qui a autorité. Et c'est pour ça qu'on disait de lui en Marc 1, 22, on était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. En Marc 1, 27, il est écrit « Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce ceci? Quel est ce nouvel enseignement ? » Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. En Luc 4, 31, il est écrit « On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. » Et Christ avait une autorité telle que même les vents et la mer lui obéissaient. En Marc 4, 41, il est écrit « Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui si à qui obéissent même le vent et la mer ?» L'autorité de Christ n'était pas une autorité destructrice, n'était pas une autorité réductrice, n'était pas une autorité tyrannique. Christ ne s'exprimait pas ou n'agissait pas de façon autoritaire. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde à l'étymologie du mot autorité, ce mot vient du latin auctoritas. Et vous savez ce que ça signifie? Ça signifie capacité de faire grandir. Incroyable, n'est-ce pas? Autorité signifie augmenter, faire grandir. Celui qui exerce l'autorité est celui qui sait faire grandir les gens, qui sait les faire progresser dans le bien. Et quand Jésus parlait, les gens étaient touchés. Pourquoi? Parce que son autorité reposait sur l'amour qu'il portait au Père. Son autorité reposait sur l'amour qu'il portait à son prochain. Parce que son autorité n'était pas là pour assouvir ses besoins personnels, mais son autorité, il la mettait au service des autres. Il la mettait au service des autres pour prêcher l'Évangile, pour nourrir la foule, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour ressusciter les morts. Son autorité était basée sur l'amour et sur la douceur. Christ n'a jamais répliqué ni aux insultes ni aux coups qu'on lui portait. Et Christ enseignait à ses disciples la non-violence et l'amour inconditionnel. Et c'est ainsi qu'il les enseignait, et c'est ainsi qu'il nous enseigne encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Lorsqu'il nous dit en Matthieu 5, 38, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains ainsi aussi n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et c'est ainsi que le Seigneur désire nous voir agir, n'est-ce pas ? Et c'est ainsi que lui-même réagissait. Rappelons-nous, lors de son arrestation au Jardin des Oliviers, Jésus n'a pas résisté. Il n'a admis aucune brutalité, même si c'était pour le défendre, pour le protéger. Il ira même jusqu'à guérir l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur venu pour l'arrêter. Et il fera même rengainer l'épée de Pierre. Plus tard, devant les juges, Jésus ne dira mot. Il ne ripostera pas aux injures. Et cette non-violence de Jésus qui aurait pu se défendre avec une armée d'anges comme il le lui avait été suggéré au moment de la tentation dans le désert, eh bien cette non-violence de Jésus manifeste toute sa douceur. Jésus oppose constamment la non-violence à la violence. Il ne rend pas les coups qu'on lui fait, qu'on lui donne, bien au contraire, il se laisse violenter, jusqu'à subir ce procès inique, jusqu'à être flagellé, jusqu'à être couronné d'épines, jusqu'à mourir sur cette croix. Dans l'oppression, Christ, lui, le Fils du Dieu vivant, s'est fait le plus faible pour nous, dans l'amour et la douceur. Et le fait de renoncer à l'arrogance, à la volonté de puissance, eh bien laisse place à la miséricorde, à la compréhension, à la compassion. Jésus sur la croix paraît tellement faible, n'est-ce pas ? Paraît tellement impuissant, réduit à rien. Et pourtant, toute sa douceur extrême arrive encore à transparaître. Et au milieu des injures et des moqueries, il a encore la force de pardonner à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Et Jésus en croix, lui, il fait don de sa vie aux brigands crucifiés à ses côtés, à qui il promet même d'être aujourd'hui avec lui dans le paradis. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi. » Dans le paradis. Cette image du Messie cloué sur cette croix est loin de l'image de ce que la majorité du peuple d'Israël pouvait espérer. Au lieu d'un libérateur guerrier entrant dans Jérusalem sur un grand destrier, au lieu de cela, il arriva ce qui avait été annoncé par le prophète Zacharie, où il est écrit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Voici le roi que le peuple d'Israël attendait tant, n'est-ce pas ? Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Et c'est ainsi que Christ est rentré dans Jérusalem, n'est-ce pas ? Juste et victorieux. Mais la suite du verset nous dit, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Un roi victorieux, certes, mais rempli d'humilité et de douceur. Des traits qui caractérisent tellement bien la personne de Christ. Et cette béatitude est un appel de Jésus à vivre de cette manière, un appel à la douceur, à l'humilité, à la bonté envers les autres. Et si nous avions besoin d'une description de cette manière de vivre, eh bien, on pourrait la trouver dans le psaume 37, où l'on pourrait trouver ce qui détermine les caractéristiques de ceux que la Bible appelle les doux et les humbles. Psaume 37 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était, et il a disparu. Les humbles possèdent le pays, et ils jouissent d'une paix abondante. Le méchant complote contre le juste, et il grince des dents contre lui, mais le Seigneur se moque du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leurs arcs pour faire tomber le malheureux et le pauvre pour égorger ceux dont la voie est droite, mais leur épée transperce leur propre cœur et leur arc se brise. Mais mieux vaut peu du juste que l'abondance de nombreux méchants, car la force des méchants sera brisée, tandis que l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure éternellement. Ils ne sont pas couverts de honte quand vient le malheur, et ils sont rassasiés quand la famine est là. Tandis que les méchants disparaissent, les ennemis de l'Éternel connaissent le même sort que les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent comme une fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que l'Éternel bénit possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont exterminés. L'Éternel affermit le pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et tu auras toujours, pour toujours, une demeure. Car l'Éternel aime ce qui est droit, il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. Les justes posséderont le pays, ils y demeureront définitivement. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne faiblissent pas. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir, mais l'Éternel ne le livre pas entre ses mains. Il ne le laisse pas condamner quand il est jugé. Espère en l'Éternel, suis sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, tandis que tu verras les méchants exterminés. J'ai vu l'homme violent dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant, mais il est passé, il n'existe plus. Je le cherche et je ne le trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix. Tandis que les rebelles sont tous détruits, l'avenir des méchants est réduit à néant. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse dans les moments de détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et il les sauve parce qu'ils cherchent refuge en lui. On se rend bien compte au travers de ce psaume que deux profils s'opposent, n'est-ce pas ? Celui du juste et du méchant. Parce que si dans le psaume, parce que si le psaume 37 débute en faisant mention des méchants, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, parce que les méchants sont ceux qui commettent l'iniquité, n'est-ce pas ? Et bien plus loin, en verset 6, et bien le psalmiste parle aussi d'une autre sorte de personne, celle qui est juste et droite, de celle qui fera paître sa justice comme la lumière et son droit comme le soleil en plein midi. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ici, il s'agit de la même personne qui est mentionnée au verset 11 et dont on dit que cette personne est humble. Les humbles possèdent le pays et jouissent d'une paix abondante. Et cette relation devient encore plus évidente lorsque on regarde au verset 29 où il est écrit « Eh bien, les justes posséderont le pays et ils y demeureront définitivement. » Les humbles posséderont le pays, les justes posséderont le pays. Les humbles, ceux que les béatitudes appellent les doux, ben sont les justes. Ils sont ceux qui posséderont le pays, ils sont ceux qui hériteront de la terre et qui l'habiteront pour toujours. On ne peut pas être doux sans être juste. Les doux sont les justes. Et les justes sont les doux. Dieu a fait la promesse qu'il donnera la terre en héritage aux doux, aux justes. Ce sont eux qui posséderont la terre. Dans l'évangile de Jean, il nous a rappelé que celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. L'apôtre Jean nous rappelle que le juste est celui qui pratique la justice, n'est-ce pas ? Il n'est pas celui simplement qui la médite, qui la lit, qui la consulte, mais le juste est celui qui pratique la justice. Parce que tenir des propos qui soulignent l'importance de la justice ou de la droiture dans la foi chrétienne ne suffit pas. Il faut aussi la pratiquer. Nos belles paroles doivent toujours s'accompagner d'un comportement, d'actes qui supportent ces paroles. Et c'est pour ça que Jacques nous disait « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Et c'est pour ça que Michée nous disait aussi « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, pardon, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voyez, il y a toujours cette notion de pratique, que tu pratiques la justice, que tu ne restes pas immobile, mais que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher humblement avec notre Dieu, sans faillir en rien, sans que nos pas chancellent. Et c'est pour ça que dans ce psaume 37, aussi il est écrit, « La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice, et la loi de son Dieu est dans son cœur. » La loi de son Dieu est dans son cœur et ses pas ne chancellent point. Lorsque la parole affirme que la loi de Dieu réside dans le cœur, eh bien elle parle de toute évidence du cœur de celui qui pratique la juste loi de Dieu. Et il en est de même pour les doux, puisqu'ils sont justes. Les doux sont les justes et les justes sont les doux. Et ils mettent en pratique la justice de Dieu. Et un autre trait qui caractérise le doux est que le doux est celui qui sait attendre le Seigneur. Il est celui qui est patient. Il est celui qui espère et compte sur l'Éternel. Et c'est pour ça qu'au verset 37, verset 9, il est écrit « Ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. » Intéressant, n'est-ce pas ? Nous avions vu précédemment que les doux posséderont le pays, que les justes posséderont le pays, eh bien ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Ceux qui s'attendent à lui, en toute tranquillité d'esprit, en toute quiétude, en toute confiance, posséderont le pays. Et c'est ainsi qu'il est écrit au verset 7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel. Le psalmiste nous exhorte à attendre le Seigneur. Et il nous dit dans la suite de ce verset, comment attendre le Seigneur et en quoi ça consiste ? Eh bien, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Celui qui attend le Seigneur ne s'irrite pas. Et il est vrai que dans ce monde, il y aurait tellement de raisons de s'irriter, de s'enflammer, de brûler de colère, de s'échauffer sous la frustration à cause de l'injustice, à cause de l'homme mauvais qui vit dans la voie du succès. Mais la réponse du psalmiste montre une toute autre façon de voir les choses, n'est-ce pas ? Ne vous abandonnez pas à la colère, ne vous irritez point. Ne vous abandonnez pas à la colère, ne vous irritez point. Pourquoi ? Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Nous n'avons rien à craindre. Dieu s'occupera personnellement de cette injustice, parce que notre Dieu est un Dieu juste. Quiconque commet le mal ne pourra échapper au juste jugement de Dieu. Tôt ou tard, la justice de Dieu se fera sentir. Dieu défend le juste et condamne le méchant. Et lorsque Jésus dit « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre », ce verset ne fait pas l'éloge de l'être passif qui se laisse abuser sans opposition. Il souligne plutôt la nécessité d'accepter les injustices de notre monde sans user de représailles. La Bible nous demande de rester en silence devant le Seigneur, de l'attendre et de compter sur lui pour que la justice se rétablisse. Et si on porte atteinte à votre personne, ne ripostez pas avec un esprit de vengeance. Laissez Dieu prendre votre défense. C'est vrai, on l'a vu précédemment, c'est vrai qu'il y a dans notre monde une loi qui semble régir le comportement humain. Il s'agit de la loi du plus fort. Les plus forts et les plus habiles sont ceux qui parviennent à imposer leur volonté. Ils ont appris à se battre pour survivre dans un monde dur. Et on dit qu'il faut savoir se défendre, sinon on risque de se faire dominer par les plus malins. Et si on ne se protège pas, qui va venir à notre secours ? Dans le raisonnement de l'homme naturel, chacun est livré à lui-même. Mais dans le domaine spirituel, notre force ne provient pas de notre personne. Notre force se trouve en Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans ce psaume 37, au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira. » Au verset 28, « L'Éternel n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. » Au verset 39, « Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse dans les moments de détresse. » Au verset 40, « L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. » Au verset 34, « Espère en l'Éternel. Garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. » Et il t'élèvera. Espère en l'Éternel et il t'élèvera. Dieu élèvera ceux qui espèrent en lui, ceux qui s'attendent à lui, ceux qui se confient en lui. Espérons en Dieu et il nous élèvera et nous posséderons le pays. Ainsi est celui qui est doux. Pour terminer ce chapitre de la douceur, eh ben on ne peut pas parler de douceur et d'humilité sans citer l'exemple dont la parole de Dieu nous dit que cet homme était le plus doux, le plus humble de tous, bref, un exemple de douceur. Cet homme était le plus doux de tous les hommes et personne ne pouvait se mesurer à lui quand il s'agissait d'être doux. Et cet homme, vous savez, c'était qui ? Ben, c'était Moïse. En Nombre 12, verset 3, il est écrit « Et cet homme, Moïse, était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. » Extraordinaire, n'est-ce pas ? Et ce qui est marrant, c'est que dans les autres versions, ce verset, il est marqué ainsi « Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Dans la version Louis II. Dans la version 21, il est écrit « Or Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. » Intéressant, n'est-ce pas ? Selon les versions, pour ce même trait de caractère, eh ben, on retrouve encore une fois la notion de douceur, d'humilité et de patience. Moïse était cet homme. Il était doux. Il était fort patient et il était très humble. Moïse était un homme très humble, plus doux qu'aucun homme sur cette terre. Mais vous me direz, mais comment la parole peut-elle faire une telle déclaration vis-à-vis de Moïse ? Dans quel sens Moïse était-il si doux, si humble, si patient ? Ben, cette réponse, on la trouve tout simplement dans ce chapitre 12 du livre des Nombres, où il est écrit « Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à l'occasion de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. » Et ils dirent « L'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse seulement ? N'a-t-il pas parlé aussi par nous ?» Et l'Éternel l'entendit. Et cet homme, Moïse, était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Et soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, « Sortez, vous trois, vers la tente d'assignation. » Et ils sortirent, eux trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Et il appela Aaron et Marie. Et ils sortirent, eux deux. Et il dit, « Écoutez mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui en vision et je lui parlerai en songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison ? Je parle avec lui bouche à bouche et en me révélant clairement et non en énigme. Et il voit la ressemblance de l'Éternel. Et pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre eux et elle s'en alla. Et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était lépreuse comme la neige. Et Aaron se tourna vers Marie et voici, elle était lépreuse. Et Aaron dit à Moïse, « Ah, mon Seigneur, ne mets pas, je te prie, sur nous ce péché par lequel nous avons agi follement et par lequel nous avons péché. Je te prie qu'elle ne soit pas comme un enfant mort dont la chair est à demi consumée quand il sort du ventre de sa mère. » Et Moïse cria à l'Éternel, disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la, je te prie. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui eût craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours dans la honte ? Qu'elle soit exclue 7 jours hors du camp, et après qu'elle y soit recueillie. » Et Marie demeura exclue hors du camp 7 jours, et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Marie eût été recueillie. On se rend compte donc dans ce passage que Myriam et Aaron avaient visiblement de la rancune contre Moïse. Parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne et ce mariage était au cœur de leur litige. Myriam et Aaron ne pouvaient pas approuver une telle union parce que un Hébreu avait le devoir de se marier avec une personne de son peuple, n'est-ce pas ? Et ils n'avaient pas à chercher ailleurs. Et ils étaient scandalisés de voir Moïse prendre pour épouse une telle femme. Mais leurs reproches ne s'arrêtaient pas là non plus. Ils avaient d'autres choses à dire à Moïse. Ils dirent, l'Éternel n'a-t-il pas parlé que par Moïse seulement ? N'a-t-il pas parlé aussi par nous ? Myriam et Aaron se plaignaient d'avoir bien peu de place sous la fonction de Moïse. Dieu avait fait de Moïse le chef du peuple choisi, le principal prophète de la nation juive, et Myriam et Aaron commençaient à envier cette position de Moïse. Et cette jalousie les poussait finalement à parler contre Moïse au sujet de son mariage, au sujet de sa fonction, au sujet de leur rôle. Et c'est ici que Moïse montre toute son humilité et toute sa douceur. Parce que Moïse, par rapport à leur réaction, Moïse aurait pu réagir autrement, il aurait pu leur dire « Mais pourquoi m'attaquez-vous de la sorte ? Vous dites que des sottises, c'est moi que Dieu a choisi pour diriger la nation. Pourquoi me critiquez-vous ainsi ?» Et ce qui est merveilleux de voir, c'est que il semble que Moïse ait choisi de ne pas s'engager justement sur cette voie, de ne pas s'engager dans un affrontement. Il n'a pas dit un seul mot en guise de riposte. Et au lieu de rendre l'appareil avec sa bouche, Moïse a gardé le silence devant l'Éternel et il l'a attendu. Et c'est justement pour souligner cette attitude de douceur que la parole nous dit au verset 3 que Moïse était un homme exceptionnellement doux, n'est-ce pas ? Parce que s'il en avait été autrement, la parole de Dieu aurait pu ignorer ce verset et passer directement du verset 2 au verset 4. Et ça n'aurait rien changé quant à la signification du reste du passage. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est Dieu qui a réagi. Dieu a puni Myriam pour avoir tenu des propos insultants à l'égard de Moïse. Ainsi, au verset 10, il est écrit qu'elle fut frappée de lèpre comme la neige. Et voyant ce qui était arrivé à Myriam, Aaron implora Moïse de prier Dieu pour qu'elle soit guérie. Et quelle fut la réponse de Moïse ? Tant pis pour elle. Elle n'a ce qu'elle mérite. Pas du tout. Au verset 13, il est écrit que Moïse cria à l'Éternel en disant « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. Je t'en supplie, Seigneur, guéris-la de sa maladie. » Et c'est extraordinaire parce que à travers cette prière, on ne perçoit aucune trace de vengeance de la part de Moïse, aucune trace de rancune, aucune trace d'amertume. Malgré les mauvaises paroles de Myriam, il n'avait que de la compassion pour celle-ci. Quelle générosité de cœur, n'est-ce pas ? Et on comprend maintenant pourquoi la Bible dit que Moïse était plus doux que tout autre homme sur la terre. Et à travers cet exemple de Moïse, nous pouvons maintenant vraiment saisir le sens des paroles de Jésus, n'est-ce pas ? Quand il dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Pardon. Ils sont heureux ceux qui sont doux, tout comme Moïse était doux, car ils posséderont le pays, car ils recevront la terre en héritage. » Dieu désire que les chrétiens marchent dans la douceur à l'exemple de Moïse. Et c'est par sa seule grâce et le soutien du Saint-Esprit que nous pouvons y parvenir. Il est vrai que Moïse n'a pas pu prendre possession de la terre du pays de Canaan, mais il en est une autre, plus majestueuse qui l'attend et que nous partagerons avec lui, n'est-ce pas ? J'aimerais finir par un dernier passage qui se trouve dans Apocalypse, au chapitre 5, où il est écrit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à sept sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau, debout, comme offert en sacrifice. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Magnifique, n'est-ce pas, de savoir que Christ a racheté pour Dieu par son sang des hommes. Mais quel homme a-t-il racheté ? Des hommes de toute tribu, des hommes de toute langue, des hommes de tout peuple, des hommes de toute nation. Et de qui s'agit-il ? Ben, il s'agit de nous, mes amis, n'est-ce pas ? Christ est venu pour nous racheter par son sang, n'est-ce pas ? Et par rapport à ça, par rapport au rachat de son sang, eh ben, quelle est l'espérance que nous avons ? Quelle est la promesse qu'il nous fait ? C'est qu'ils régneront sur la terre. Magnifique, n'est-ce pas ? Quelle promesse avons-nous ici à travers cette parole de Dieu ? Et si Dieu le permet, eh ben, la prochaine fois, nous parlerons de cet héritage que Dieu promet aux débonnaires, de cet héritage que Dieu promet aux doux, de cet héritage que Dieu promet aux humbles, de cet héritage qu'il promet à celles et à ceux que Dieu a rachetés par le sang de Christ. Amen. Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre.